C'est exprimé dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, la fin du chapitre 13 et le début du chapitre 14. Jean, au chapitre 13. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 33. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. » Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » Jusqu'ici, notre lecture. Ce matin, ce passage est très riche. Nous allons aborder, nous arrêter d'une manière toute particulière sur la déclaration de Jésus au verset 6 du chapitre 14. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est la sixième fois dans l'évangile de Jean que Jésus se présente de la sorte, c'est-à-dire avec « je suis » plus un compliment. Nous avons déjà eu l'occasion de parler des cinq précédentes fois où Jésus a dit « je suis ». Je suis suivi par le pain de vie, la porte des brebis, la lumière du monde, la résurrection et la vie, le bon berger. Et la prochaine fois, nous terminerons avec le dernier « je suis la vigne ». Qui est au chapitre 15. Maintenant, nous allons nous concentrer sur « Je suis le chemin ». Ce chemin n'est autre que celui qui mène vers le Père. « Nul ne vient au Père que par moi », précise la fin de cette déclaration de Jésus. Donc il ne s'agit pas ici d'un chemin qui mènerait vers la vérité et la vie, mais plutôt du chemin qui mène vers le Père. L'image du chemin est souvent employée dans l'Ancien Testament. Et elle évoque plusieurs réalités. Lorsqu'on parle de chemin, plusieurs images viennent à l'esprit d'un juif de l'époque de Jésus. Mais je veux retenir ici deux. La première, c'est le chemin comme dans le sens de l'orientation d'une existence de la vie humaine, c'est-à-dire les choix que nous posons, les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons pour la vie professionnelle et aussi pour notre vie spirituelle. pour notre vie familiale. Donc, ce chemin-là qu'on a choisi, c'est dans ce sens, par exemple, que notre devise cette année, le mot « chemin » est employé dans notre devise de cette année. Que je rappelle, c'est le psaume 37, verset 5, « Remets ton chemin au Seigneur, confie-toi en lui, il agira. » Donc, le chemin, les décisions que nous prenons dans notre vie au quotidien. Et le psalmiste, en particulier donc dans le psaume 37, invite le croyant à orienter tous ses choix, toutes ses décisions vers le Seigneur, en d'autres termes, à les soumettre à la direction de notre Seigneur. Le deuxième sens qu'on trouve du mot chemin, et qui est beaucoup plus fréquent, qui ressort d'une manière très clairement, très claire dans l'Ancien Testament, c'est le chemin de Dieu. C'est-à-dire la conduite que Dieu demande à ceux qui veulent lui rester fidèles. C'est ainsi que le Seigneur, par exemple, ne cesse de faire des recommandations à son peuple dans le livre déjà de la loi pour qu'ils suivent son chemin, le chemin qu'il trace devant eux. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, le verset 33, il dit « Suivez exactement le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a prescrit et vous vivrez heureux et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. » C'est ainsi que Moïse exhortait le peuple à son époque alors qu'il venait de sortir du pays d'Égypte. Il y a là, en plus, en marchant sur le chemin du Seigneur, il y a là une promesse, une belle promesse, à savoir une vie heureuse et une vie longue. Et lorsqu'on regarde la longévité dans l'Ancien Testament, est considérée comme une bénédiction de Dieu. Parce qu'on regarde par exemple le Deutéronome 28, où il y a bénédiction et malédiction liées justement au respect des clauses de l'Alliance, l'Alliance mosaïque, et la longévité, une langue de vie, est liée à la bénédiction du Seigneur, dans le contexte bien sûr de l'Ancien Testament, je l'entends. Mais dans le cas contraire, dans le cas où on choisit de ne pas suivre le chemin que le Seigneur a tracé devant nous, devant son peuple, lorsque le peuple agit et transgresse la loi du Seigneur, agit contre la loi et transgresse la loi du Seigneur, le Seigneur vient lui rappeler, envoie ses prophètes et lui rappelle l'importance de suivre son chemin. C'est ainsi, lorsque le peuple, après avoir vécu une belle délivrance du Seigneur, il s'est formé un veau d'or parce qu'il veut avoir un Dieu visible, une idole visible comme tous les autres peuples. Et à ce moment-là, le Seigneur dit à Moïse, alors que Moïse il était à la montagne avec le Seigneur, dans la présence et la gloire du Seigneur, j'ose dire, et le Seigneur dit à Moïse, va, descends et descends vite. Descends vite de cette montagne, car ton peuple que tu as conduit hors d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite détournés du chemin, de la voie, du chemin que je leur avais commandé de suivre. Ils se sont fabriqués une idole de métal fondu. Transgresser la voie que le Seigneur a prescrite devant son peuple. Voici, le Seigneur envoie son serviteur pour rappeler le peuple. Le peuple à l'ordre. Les conséquences de ce détournement de chemin de Seigneur, de Dieu, étaient désastreuses. Le peuple était dans l'obligation d'errer, d'errer et d'errer encore dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. À vrai dire, et le psaume que nous avons lu, la fin du psaume que nous avons lu tout au début du culte le rappelle, toute cette génération-là n'a pas eu accès à la terre promise, excepté bien sûr Josué et Caleb. Même Moïse n'a pas dû se contenter de contempler la terre promise de loin. C'est pourquoi, dans les psaumes, on a retenu un petit peu la leçon, et dans le psaume, on retrouve d'une manière très fréquente des prières montées vers le Seigneur pour lui demander de leur donner, d'apprendre à respecter son chemin, d'apprendre à marcher selon son chemin. Au psaume 25, par exemple, David fait cette prière. « Ô Seigneur, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. » Dirige-moi selon ta vérité, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Je m'attends à toi à longueur de journée. Et il poursuit un peu plus tard. Toutes les voies du Seigneur sont amour et fidélité. Et ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent. Pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Donc le chemin que le Seigneur nous dresse est loin d'être un chemin, je dirais, contraignant, ou ce serait une corvée que Dieu infligerait à son peuple, loin de là. Il dit, c'est ce chemin, ces voies du Seigneur sont amour. Il précise, elles sont amour et fidélité pour ceux qui le suivent. C'est vrai, ceux qui ne suivent pas les chemins et les voies du Seigneur peuvent voir de loin que vivre selon les ordonnances du Seigneur serait une contrainte. Vivre selon les ordonnances du Seigneur serait de se priver de certaines petites joies du monde, on dirait. Mais celui qui vit, celui qui obéit à ses commandements, ceux qui sont fidèles à ce chemin du Seigneur savent que la voie du Seigneur, que le chemin du Seigneur est tout, sauf des contraintes, sauf des restrictions de liberté. Bien au contraire, Jésus dira, la vraie liberté se vit justement dans l'obéissance totale au Seigneur. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons vraiment prétendre à la liberté telle qu'elle est bien sûr définie par le Seigneur et dans l'Écriture. Au psaume 119, le psautier fait aussi cette prière à bien des reprises dans ce psaume 119 consacré à la loi de Dieu, consacré à la loi, à la parole de Dieu. Je l'ai uniquement le verset 27 où il dit « Fais-moi discerner le chemin que tu as tracé par tes décrets ou bien par tes ordonnances, par tes commandements pour que je réfléchisse à tes merveilles. » Voici la prière que le psalmiste fait monter vers le Seigneur. « Fais-moi discerner ton chemin. » Il y a tellement de chemins parfois et des voies qui se proposent à nous. Il y a certaines même qui viennent, qui s'invitent sans qu'on le veuille. Qui s'invitent, qui se forcent à venir dans notre vie. Mais c'est à nous maintenant de demander au Seigneur, comme le fait le psalmiste ici, de discerner son chemin sur la base de ses commandements, de sa loi, pour que nous réfléchissions à ses merveilles et à ses bontés. Il y a une autre prière, toujours dans le livre des psalmistes, 43, psaume 43, mais avec une particularité. La particularité, c'est que dans cette prière au psaume 43, nous avons la destination de ce chemin. Le psalmiste dit « Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle me guide vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure. » Là, pour la première fois, le psalmiste, il nous donne la destination de ce chemin du Seigneur. Avant, le chemin du Seigneur nous est présenté comme bien sûr la loi, la volonté de Dieu exprimée dans la loi, dans les prophètes, dans la parole de Dieu. Et là, il y a une particularité dans ce psaume 43, dans la mesure où le psalmiste nous donne la destinée de ce chemin. Où mène ce chemin? Et la fin de ce verset, donc 3, il nous dit, c'est la montagne sainte, et puis il précise, jusque dans ta demeure. C'est la demeure du Seigneur qui est la finalité de ce chemin. Il est vrai que lorsqu'on parle de chemin, le peuple d'Israël au temps de Jésus penserait tout naturellement à ce chemin parcouru d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, jusqu'au pays promis par le Seigneur. Et c'est vrai, ils ont vu aussi le Seigneur voyager avec eux, leur montrer le chemin avec eux. À bien des reprises dans l'Ancien Testament, il nous est rappelé que le Seigneur conduisait son peuple le jour par la nuée et puis la nuit par une colonne de feu. Et cela reste dans l'esprit des Israélites. À qui s'adressait des Juifs, à qui s'adressait Jésus lorsqu'il fait cette déclaration, et bien sûr aussi à ses disciples. Mais dans le psaume 43, on voit qu'il y a là il y a une finalité, c'est-à-dire la conduite, ce chemin du Seigneur, ne mène pas simplement à la terre promise, mais cette fois-ci, il mène à la demeure de Dieu, la demeure de Dieu lui-même. Et lorsque Jésus pose la question aux disciples, « Vous savez le chemin ?» Probablement, il s'attendait à ce que les disciples comprennent que Jésus leur parle du chemin qui mène vers la demeure de Dieu. Le chemin qui mène vers la demeure de Dieu. D'autant plus que Juste au début du chapitre 14, le verset 1er et 2, il leur parle des demeures. Il leur dit que je vais vers mon Père et je vais vous préparer des demeures. Vu que les disciples, visiblement, n'ont pas bien saisi le message, n'ont pas bien compris, du moins ce qui ressort de l'interrogation de Thomas, Jésus va expliciter, il va leur dire, écoutez, je suis le chemin qui mène vers le Père. Vous voulez suivre ce chemin de Dieu qui mène à la demeure de Dieu, c'est moi, je suis là devant vous. En d'autres termes, si dans l'Ancien Testament, le chemin peut évoquer plusieurs choses, c'est-à-dire les choix de la vie courante que l'un ou l'autre pourrait faire, ou bien la voie, le chemin que le Seigneur a indiqué d'une manière explicite à son peuple, ou bien la loi de Dieu, dans le Nouveau Testament, Jésus se présente ici comme le seul chemin. L'unique, le seul chemin qui mène vers le Père. Ce chemin est marqué par deux qualités. Il est marqué par la vérité et il est marqué par la vie. Qualifier ce chemin de vérité et de vie, Jésus, en le qualifiant ainsi, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'évangile de Jean. Parce que déjà précédemment, Jésus se présente comme la vérité. À vrai dire, dès le début du chapitre, du premier chapitre du livre de Jean, de l'évangile de Jean, dès qu'on commence la lecture de ce chapitre, arrivé au verset 14, on comprend que si la parole est devenue chair, elle a fait demeure parmi nous, nous dit l'apôtre Jean, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père, elle était pleine de grâce et de vérité. La gloire de ce Fils de Dieu est pleine de grâce et de vérité. Et bien sûr, un peu plus loin, deux versets après, Jean le dit très clairement, la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quant à la vie, Jésus lui-même se présente dans l'évangile de Jean comme le donneur de la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en lui reçoit la vie éternelle. Jésus dit, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Hein, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui échappe à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus, la vie et la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie. Et dans l'évangile de Jean, toujours, Jésus est aussi celui qui donne l'eau vive. Lors de sa discussion avec la femme samaritaine, Jésus rappelle à la femme samaritaine si elle pouvait lui donner de l'eau depuis, lui par contre, il pouvait lui donner de l'eau vive et elle n'aura plus jamais soif dans sa vie. Jésus, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, parlait et se présentait comme il est le pain de vie. Et celui qui mange de son pain n'aura pas faim non plus. La vie éternelle n'est autre que de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est la prière de notre Seigneur, la prière sacerdotale. Au chapitre 17, il va dire, Père, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, qualifier Jésus le chemin, Jésus est le chemin, le qualifier de la vérité et de la vie, est tout à fait normal, et enfin, tout à fait déjà dit et enseigné dans l'évangile de Jean avant cette déclaration. Mais il est important de préciser que le chemin dont parle Jésus ici n'est pas un chemin qui mène vers la vie ou qui mène vers la vérité, mais c'est le chemin qui mène vers le Père, et c'est la fin du verset qui le précise. Jésus est donc le chemin, le véritable, le vivant. C'est pour cela qu'il peut conduire les gens qui se tournent vers lui, qui croient en lui, il peut le conduire vers le Père en toute vérité et en toute vérité et pour une vie éternelle. Jésus est le seul chemin. Aucun autre moyen n'est prévu pour arriver à la demeure de notre Père céleste. L'expression « je suis le chemin » est faite de sorte à ce qu'elle exclut toute autre possibilité d'avoir un autre moyen d'arriver au Père sans passer par le Fils, par Jésus-Christ. Et cela va nous être confirmé par les apôtres, Pierre et Jean, Lorsqu'ils sont devant le conseil, ils vont devoir répondre de leur prédication, de ce qu'ils faisaient au temple de Jérusalem. Et il leur dit, ils disent, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Uniquement dans le nom de Jésus. Cela peut paraître comme un langage exclusif, un langage qui exclut les autres. Mais à vrai dire, ce n'est pas vrai. À vrai dire, sinon c'est faux. Parce que c'est au contraire, c'est un langage inclusif. C'est un langage qui veut inclure tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Il veut les inclure pour arriver à la demeure céleste. Tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent reconnaître cette vérité sont reçus. Sont reçus dans la maison de Père. Il y a plusieurs demeures, dit Jésus, qui attendent ceux et celles qui veulent croire. Mais ceux qui refusent de croire en « Je suis le chemin », ou « Je suis le chemin qui se présentait devant eux », ceux qui veulent, ne veulent pas croire, à vrai dire, s'excluent eux-mêmes. Personne ne les exclut. C'est eux qui s'excluent. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, dit Jésus dans l'évangile de Jean toujours. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le Fils unique de Dieu. Donc il n'est pas question ici d'exclusion. Jésus veut bien inclure tous ceux qui entendent sa voix et qui croient en la vérité. C'est donc notre attitude vis-à-vis de Jésus qui est déterminante. Croire dans le chemin que Dieu a prévu, c'est être sûr d'avoir une demeure dans la maison du Père. Et ne pas croire, c'est tout simplement s'exclure de la maison du Père. Vu que les Juifs n'étaient pas les seuls à ne pas comprendre ce message de Jésus, vu que les disciples aussi ont du mal à comprendre, Jésus va leur donner un autre élément pour permettre à ses disciples de croire d'une manière beaucoup plus solide et avec plus d'assurance qu'il est vraiment le chemin, l'unique, le seul chemin qui mène vers le Père. Il leur dit au verset 10, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voir Jésus, c'est voir le Père. Déjà au chapitre 10, Jésus a affirmé à deux reprises face aux Juifs qui cherchaient à le lapider, parce qu'il leur avait dit qu'il est le Fils de Dieu, il affirmait que le Père et lui sont un. Au verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Et au verset 38 du même chapitre, il dit « Sachez et comprenez que le Père est en moi et que moi, je suis dans le Père. » Mais visiblement, les disciples ont du mal à comprendre. Pour les aider à saisir cette profonde unité entre le Père et le Fils, pour les aider à comprendre que le Père a choisi le Fils pour se manifester, se révéler pleinement, Jésus va attirer leur attention sur deux choses. D'abord, sur sa parole et sur ses œuvres. Il précise à ses disciples, il leur dit, « Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. » Au chapitre 5, il leur avait déjà dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il leur avait déjà dit cela. Et au chapitre 8, Jésus dit clairement, au verset 38, qu'il ne dit rien que ce que le Père lui dit dire. Face à l'accusation des Juifs de blasphème, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Jésus évoque comme preuve qu'il est vraiment, qu'il vient du Père, il évoque comme preuve les œuvres, ses œuvres. Il dit que ses œuvres ne sont autres que les œuvres de son Père céleste. Il répond aux Juifs qui voulaient lapider en disant, si je ne faisais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez parce que je fais les œuvres de mon Père. Or, les œuvres de Jésus sont écrites dans l'Ancien Testament qui sont des œuvres de Dieu. Donc, il y a une logique à laquelle Jésus invite ses auditeurs, du moins s'ils veulent comprendre. Aussi bien, donc, les paroles que les actes ou les œuvres de Jésus montre bien que Jésus et le Père sont un. Par la suite, c'est-à-dire à partir de chapitre 14, pour rassurer et encourager les disciples, Jésus va réaffirmer à deux reprises dans ce grand discours d'adieu, vous savez, du chapitre 13 au chapitre 17 dans l'évangile de Jean, c'est le dernier grand discours dans l'évangile de Jean avant que Jésus aille à la croix et puis soit ressuscité. Et là, au chapitre 14, au verset 18, il dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, je suis en vous. Et dans sa prière sacerdotale, au chapitre 17 que j'ai évoqué tout à l'heure, au chapitre 20 et 21, Jésus dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie » dans sa prière pour le Père, « mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père. » Tu es en moi et moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Dans sa prière, Jésus redit clairement que le Père est en lui et que lui est dans le Père. Et dans ces deux derniers textes en particulier, Jésus va souligner un autre lien. Jusqu'à maintenant, il a souligné le lien qu'il y a entre le Père et lui. Celui qui a vu le Père a vu Jésus, un lien fort et étroit. Et maintenant, il va évoquer dans les deux derniers textes que je vous ai lus, l'union qu'il y a entre lui et ses disciples. « Je suis en vous », dit au chapitre 14, verset 20, « qu'ils soient tous un en nous », le verset 17, chapitre 17, pardon, le verset 21. Donc, les disciples vont devoir comprendre par la suite ce qui est uni, le Père et le Fils est tellement fort qu'ils sont un. Il y a une belle harmonie entre le Père et le Fils. Rien n'est fait par le Fils qui ne soit pas dans la volonté du Père. Tout ce que le Père fait, il le fait parce que ce sont des œuvres du Père. Le Père lui demande de le faire. C'est une union profonde qu'il y a là entre le Père et le Fils. Jésus va inviter ses disciples aussi. Il va appeler ses disciples à vivre selon sa volonté, à entrer dans son œuvre, dans ses œuvres, à pratiquer ses œuvres et à développer une relation profonde avec lui. C'est une manière de leur dire, dans sa prière, de dire au Père, « Je prie pour qu'il soit un aussi avec nous. » Mais au moment où Jésus parle à ses disciples, au moment où Jésus discute dans le début du chapitre 14, pour le moment, les disciples ont du mal à comprendre cet appel de Jésus. Ils ont même du mal à comprendre l'union ou l'unité profonde entre le Père et le Fils. Les disciples ont du mal à voir en Jésus le chemin qui mène vers le Père. Pour le moment, ils ont du mal à voir que Jésus est le seul lieu où le Père se manifeste pleinement. Cette incompréhension des disciples et cette incapacité des disciples à suivre totalement Jésus dans son raisonnement, dans son enseignement, pour le moment du moins, ressort très clairement dans l'attitude des disciples qui l'ont interrogé, qui sont intervenus dans notre texte, Pierre, Thomas et Philippe. Pierre voulait suivre Jésus, mais très vite il se rend compte que chose impossible dans l'immédiat. Là où je vais, Jésus lui dit avec beaucoup de compassion, « Là où je vais, vous ne pourrez venir. » En effet, Jésus va devoir y aller à la croix, et ce moment crucial, comme cela nous a été rappelé dimanche dernier, à l'occasion de dimanche de Pâques, ce moment de la croix, Jésus doit l'affronter tout seul, doit le vivre seul. Avant cela, personne ne peut rejoindre, ne peut suivre Jésus. À la croix, même le zélé, Pierre, ne pourra pas accompagner son maître, son Seigneur. Il faudra donc attendre la victoire de la croix pour que la suivance de Jésus devienne possible. Il faut attendre donc la croix, la victoire de la croix, pour que suivre Jésus, suivre ses traces, pour que prendre ce chemin vers le Père, rencontrer le Père en Jésus-Christ, devienne possible. Thomas, ce qui lui échappe, n'est autre que le chemin, en d'autres termes, le moyen que le Père même a prévu pour que les êtres humains parviennent à sa connaissance, pour que les êtres humains arrivent à la demeure céleste qu'il a en réserve pour eux. Thomas, ça lui a échappé. Ça lui a échappé de comprendre que Jésus est le chemin. Bien qu'il soit en présence de Jésus depuis quand même un bon moment, à peu près vers 3 ans, Thomas a eu du mal à voir en Jésus ce chemin. Tant annoncé, et pourtant, dans l'Ancien Testament, j'ai pris le psaume 43, mais j'aurais pu prendre aussi d'autres textes. Enfin, Philippe n'arrive pas à voir en Jésus le Père. Et pourtant, Jésus, au chapitre 5, comme tous les textes que je viens de lire, il leur avait déjà dit que le Père et lui sont un. Mais Philippe, il a eu du mal à voir ça. Et Jésus a dû lui répondre, « Très cher Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis ? Montre-moi le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» La demande de Philippe peut faire penser, peut rappeler la demande de Moïse lorsqu'il demande à Dieu sur la montagne sainte, « Fais-moi voir ta gloire. » Seulement Jésus veut faire comprendre à Philippe que tout ce qu'on peut voir de Dieu, tout ce qu'on peut connaître de Dieu, ne peut être connu ailleurs que dans le Fils. Le Fils est le seul à révéler pleinement ce que nous pouvons connaître de Dieu, ce que nous pouvons connaître et ce que nous pouvons voir de Dieu est révélé pleinement dans le Fils. Ce Fils, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Et l'apôtre Paul ne dira pas moins, il dit dans l'Épître aux Colossiens, « Le Fils est l'image de Dieu invisible. » L'image de Dieu invisible. C'est donc le Fils Jésus-Christ qui est le lieu de la rencontre avec le Père. C'est en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui mène vers le Père, car il est le seul, le chemin, le véritable, le vivant. Personne ne peut arriver au Père que par lui. La réaction des 3 disciples dans notre texte est loin d'être satisfaisante. Pierre était incapable de suivre son Seigneur, peut-être indépendamment de lui. Thomas est dans l'incapacité de voir en Jésus-Christ le chemin pour arriver au Père. Et enfin, Philippe est dans l'incapacité de voir en Jésus-Christ tout simplement le lieu de la manifestation du Père. Et nous, quelle est notre attitude vis-à-vis de ce même Jésus ? Avons-nous toujours du mal à suivre ce Jésus, ce Seigneur ? Avons-nous du mal à voir en lui le seul, l'unique chemin pour parvenir au Père ? Encore avons-nous du mal à voir en Jésus simplement la manifestation aussi de notre Père céleste. Jésus lance un appel à croire à ses disciples qui éprouvent encore des difficultés dans leur foi en Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Le verbe troubler est déjà employé par Jésus lorsqu'il est dit face à la mort de Lazare. Jésus était troublé, et encore de manière beaucoup plus forte, lorsqu'il était face à sa propre mort, lorsqu'il priait. Jésus éprouvait aussi ce trouble. Les gens nous disent, au chapitre 12, au verset 27, dans sa prière, que Jésus fut troublé face à la perspective de la mort qui est devant lui. Jésus dit, « Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Il accepte. Néanmoins, il dit qu'il est troublé. Le trouble que Jésus éprouvait face à sa propre mort et face à la mort de Lazare, maintenant passe chez les disciples. Les disciples sont troublés de par plusieurs choses. D'abord, ils vont voir leur maître, leur Seigneur, celui qu'ils ont suivi, celui pour qui ils ont tout abandonné. Ils vont le voir partir parce qu'il est en train de leur dire « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus ». Ils sont troublés par ce départ, comme certains départs aussi peuvent nous troubler dans nos relations, bien sûr, à moindre échelle. Mais une autre chose aussi pour laquelle les disciples étaient troublés, et probablement vrai, c'est le fait que les disciples attendaient de Jésus qu'il est le Seigneur, celui qui allait délivrer Israël de la domination romaine, le roi davidique qui allait regagner le grand Israël. Ils attendaient à ce que le Seigneur Jésus, miraculeusement, parce qu'il fait les œuvres du Père justement, allait délivrer le peuple de la domination romaine. Et d'ailleurs, cette question, ils vont lui la poser à la fin du chapitre 24 de Luc. Et puis, même dans les Actes des Apôtres, il nous rappelle, les disciples demandent à Jésus, est-ce c'est le moment? C'est le moment de la délivrance de cet ennemi romain. Ce qui est vrai, c'est que les disciples sont vraiment tristes. Et Jésus souligne cette tristesse au chapitre 16. Il leur dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, parce que je vous ai parlé ainsi. La tristesse a rempli votre cœur. » Mais Jésus ne va pas laisser les disciples dans cet état. Il ne va pas les laisser dans cette situation. Il les exhorte, il les appelle à croire en lui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. À celui qui croit, Jésus promet une demeure céleste. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Très tôt, l'expression « plusieurs demeures » a fait et est comprise par certains comme si chaque demeure correspond dans la maison du Père, correspond à une félicité de Dieu. C'est-à-dire, il y aurait des degrés dans les demeures que Dieu a en réserve pour ses disciples. C'est ainsi, par exemple, que Irénée, qui lui-même est disciple de Polycarpe, et Polycarpe était disciple de Jean l'évangéliste. Donc très tôt, Irénée avançait déjà cette thèse que Jésus voulait dire, que Jean et Jésus voulaient dire donc par plusieurs demeures, l'idée qu'il y ait des demeures différentes, donc selon les degrés de félicité de Dieu. Cette lecture a été adoptée par plusieurs pères de l'Église, notamment Clément d'Alexandrée, Origène et encore Augustin. Mais en fait, lorsqu'on regarde maintenant un peu plus près ces textes, on se rend compte qu'il n'est pas question des degrés, mais Jésus ne veut pas souligner les degrés de la félicité de Dieu, peut-être, il y en a, on ne sait pas. Mais ce qu'il veut souligner surtout, c'est l'abondance des demeures célestes. C'est l'abondance des demeures célestes. C'est le fait de dire qu'il y a plusieurs demeures révèle qu'il y aura plusieurs personnes qui sont appelées à être sauvées, plusieurs personnes qui seront sauvées, qui vont bénéficier de toutes ces demeures dans la maison du Père. Jésus annonce à ses disciples à deux reprises, dans les versets 3 et dans le verset 4, qu'il allait leur préparer une place. Et souvent, le terme aussi, là aussi, employé pour parler de place, en fait, est employé pour désigner le temple. Et vous savez, Jésus, avec le temple dans l'imaginaire, enfin, dans la pensée juive à l'époque du temps de Jésus, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. Si on veut rencontrer Dieu, il faut venir au temple. Et d'ailleurs, ça a été un piège aussi pour les juifs. Parfois, ils menaient un peu leur vie n'importe comment. Pendant toute la semaine, ils se disent, bon, de toute manière, nous avons le temple, il n'y a pas de problème, on viendra, et puis Dieu est là. Donc le fait d'avoir le temple, c'est comme si un gage d'avoir Dieu avec eux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il y avait dans l'esprit des auditeurs de Jésus. Et Jésus, d'ailleurs, leur dit, dès le début de l'évangile de Jean, au chapitre 2, que Certes, il y a détruisez ce temple et je le rebâtirai. Il leur parlait de lui, il se prenait lui comme le nouveau temple de Dieu, le nouveau lieu de la rencontre entre le fidèle et Dieu. Et donc, en plus d'être ce chemin vers le Père, il est aussi le nouveau lieu de la rencontre de Dieu, c'est-à-dire le moyen que Dieu a prévu pour que des hommes et des femmes parviennent à sa connaissance. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons ce libre accès auprès de ton trône de la grâce de notre Dieu. C'est pourquoi nous pouvons venir, tels que nous sommes, comme nous l'avons chanté au début du culte, à la rencontre de notre Père céleste. Si nous n'avons jamais fait cette démarche, si nous n'avons jamais, nous ne sommes jamais approchés de Jésus-Christ, nous n'avons jamais demandé à Jésus-Christ d'être notre Seigneur, d'être notre chemin, enfin, si nous n'avons pas encore fait cette démarche, il me semble qu'il n'est jamais trop tard pour des bonnes décisions. Et nous pouvons le faire, et nous serions très heureux de vous accompagner si l'un ou l'autre est parmi nous ce matin et qui n'a pas encore fait cette démarche. Vous pouvez vous adresser aux chrétiens qui est juste à côté de vous, ils seront aussi très heureux de le faire. Mais vous pouvez venir me voir, je serai heureux de le faire. Et pour nous qui avons l'habitude de nous approcher du Seigneur régulièrement, une bonne chose qui est une bonne chose, pour nous qui avons l'habitude de venir vers notre Père en Jésus-Christ, j'aimerais nous encourager ce matin à réaliser le privilège que Dieu nous fait. Le privilège que Dieu nous fait que de pouvoir nous approcher de lui, que de pouvoir lui appartenir et de savoir qu'il y a des demeures que Jésus prépare dans la maison de son Père pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui se tourne vers lui, qui se confie en lui. Que le Seigneur nous aide chaque jour à aller de plus en plus loin dans cette relation à laquelle il nous invite et aussi de plus en plus en profondeur dans cette relation à laquelle Jésus nous invite, dans notre écoute et dans notre connaissance de notre Père et de Jésus-Christ, car je rappelle encore une fois de plus, la vie éternelle n'est autre que de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Amen.